La revue de presse internationale, bonjour Camille Magnard. Nos
bonjour.
Voisins européens suivent de très près ce qui se passe du côté de Strasbourg après la fusillade meurtrière d'hier soir.
Et bien entendu, c'est la presse allemande qui se sent le plus concernée par cette attaque de Strasbourg et qui y consacre une plus large place. Le lieu de la fusillade se trouve à quelques encablures de la frontière matérialisée par le Rhin. Et c'est là le principal sujet d'inquiétude de Die Welt. Le tireur étant toujours en fuite et la France ayant relevé son plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, les contrôles ont été renforcés sur les ponts qui marquent cette frontière franco-allemande dans l'euro-métropole strasbourgeoise. Toutes les voitures qui passent par là sont fouillées. La ligne de tram qui relie les deux rives du Rhin a été fermée. Il s'agit, on l'aura compris, de couper toute retraite possible à l'assaillant côté allemand, nous explique Die Welt. Car, et ça c'est ce que confirme Bild, l'auteur présumé de cette attaque avait déjà été condamné plusieurs fois par la justice allemande. Il y a donc des liens avec l'Allemagne. À chaque fois, c'était pour des affaires relevant du droit commun, comme en France d'ailleurs, et forcément, eh bien, ça pose la question du profil des motivations de cet homme né à Strasbourg en 1989 et auquel de nombreux titres de la presse outre-Rhin accolent déjà le qualificatif de terroriste. Il faut dire, avec le New York Times, qu'une attaque aussi meurtrière contre un marché de Noël, forcément, eh bien, ça fait ressurgir les souvenirs de 2016 à Berlin et ce camion bélier qui avait fauché 12 vies entre des chalets de bois identiques à ceux de Strasbourg hier. La revendication à l'époque était venue rapidement du groupe État islamique. Mais plutôt que de se ruer en conclusion hâtive, le New York Times décrit ce matin une ville alsacienne traumatisée à son tour désertée hier soir quand les autorités avaient ordonné le confinement de tout l'hypercentre. Cela donne des récits plutôt glaçants de ces 5000 personnes par exemple enfermées pendant des heures dans la salle de basket de la ville où se jouait un match européen ou bien confinées pour des milliers d'autres dans des restaurants, des commerces ou donc au siège du Parlement européen. La Frankfurter Allgemeine Zeitung nous raconte la fébrilité des officiels du Parlement en apprenant la consigne de confinement, la décision prise dans l'urgence de poursuivre comme si de rien n'était les débats dans l'hémicycle pour occuper les eurodéputés enfermés. À un moment donné, nous explique même la FATS, le président du Parlement, Antonio Tajani, avait imaginé permettre aux parlementaires et aux employés de rentrer chez eux, mais il aurait fallu pour cela organiser un convoi à travers Strasbourg, escorté par les forces de l'ordre. On lui a vite fait comprendre que les policiers avaient mieux à faire, lancés dans une chasse à l'homme qui n'est toujours pas terminée ce matin.
Et puis aux États-Unis, à présent, les journaux ont du mal à se remettre de ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale de la Maison-Blanche.
Oui, déchaînement d'articles et d'analyses plutôt consternés, il faut bien le dire, sur le dernier épisode du psychodrame Trump. Hier, le président américain recevait deux éminents élus démocrates, Nancy Pelosi, la future présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, qui dirige, lui, le groupe minoritaire au Sénat. Le tout sous une forêt de caméras, dont celle de CNN, qui nous raconte que, tout d'abord, Trump et ses opposants ont loué les mérites de la politique bipartisane, ce sacro-saint concept américain selon lequel les deux camps au Congrès s'engagent à travailler en bonne intelligence pour le bien du peuple américain. Et puis, quelques secondes plus tard, la foire d'empoigne, la cacophonie et les menaces. Échange irréel, juge The Atlantic, sur la menace donc clairement exprimée par le président d'un shutdown. Il jure de couper les crédits du gouvernement et donc de paralyser toute l'administration si les démocrates refusent de voter son budget, en particulier les 5 milliards de dollars qu'il veut consacrer à la construction de son mur à la frontière avec le Mexique. Ça dure en tout 17 minutes et voilà ce que ça donne en résumé. Si je n'obtiens pas ce mur, dit Donald Trump, que ce soit avec ou sans vous, avec les militaires ou quoi qu'il en coûte, alors oui, je couperai les crédits du gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord, répond Chuck Schumer, coupé par le président qui lui dit « Je suis fier, Chuck, d'être celui qui décidera de ce shutdown, car il en va de notre sécurité nationale. » Les démocrates constatent l'impasse et Trump finit par couper court au débat. Rarement on avait ressenti une telle tension dans le bureau ovale, constate le Washington Post, qui cite Nancy Pelosi à la sortie. Pour celle qui incarne désormais la majorité démocrate à la Chambre des représentants, le problème avec cette histoire de mur à la frontière mexicaine, eh bien c'est que le président en fait une question de virilité. Et elle, répond le poste, elle en fait aussi une affaire personnelle fragilisée dans son propre camp démocrate. Pelosi avait sans doute besoin de cette passe d'armes pour s'affirmer comme celle qui va incarner la contre-attaque des démocrates à la Chambre des représentants désormais reconquise. Et vu que les républicains, eux, tiennent toujours le Sénat, nous rappelle The Guardian depuis Londres, eh bien les deux années qui viennent s'annoncent particulièrement tendues dans la politique américaine. Pour The Guardian, c'est une farce politique qui s'est jouée hier dans le bureau ovale. C'était Pinocchio et les deux démocrates ou comment le dialogue transpartisan américain a été rabaissé au niveau d'une mauvaise parodie de Laurel et Hardy se battant à coups de tarte à la crème.
Merci beaucoup pour cette revue de presse internationale, Camille Magnard. On la retrouve sur le site de France Culture, franceculture.fr